consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui, 100 ans jour pour jour après sa naissance le 21 juin 1905, deuxième et dernière partie de notre émission sur Jean-Paul Sartre, 1945-1980, la cause du peuple.
Camarades, je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et je pense que la liaison du peuple et des intellectuels devrait être retrouvée aujourd'hui.
D'histoire. Un philosophe sur un tonneau parlant aux ouvriers de Billancourt, un homme de 63 ans prêchant la violence aux étudiants de la Sorbonne, un écrivain préférant aller en prison que d'aller à Stockholm pour recevoir le prix Nobel, un défenseur de toutes les libertés reçu comme un héros dans la Russie de Brejnev, la Chine de Mao et le Cuba de Fidel Castro. Ce sont les images les plus connues des engagements paradoxaux de Jean-Paul Sartre. Celles qui ont fait de lui un des hommes les plus détestés de son temps, un des plus admirés aussi par plusieurs générations de Français qui, il y a 25 ans, enterraient avec leur jeunesse celui qui reste encore le dernier maître à penser de son siècle. France Inter, Alain Bédoué, le 16 avril 1980.
Hommage populaire hier à Jean-Paul Sartre. 25 à 30 000 personnes ont accompagné la dépouille du philosophe de l'hôpital Brousset au cimetière Montparnasse. Dans la foule, des personnes connues, bien sûr, comme Yves Montand, Michel Rocard, Françoise Sagan ou François Perrier, mais surtout des milliers d'anonymes qui tenaient à saluer une dernière fois Sartre.
Sentimentalement, je suis attaché à lui et je fais jamais ce genre de choses, mais pour Sartre, je le fais.
Ben, Sartre, c'était pas un pourri. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sartre.
On est tous des enfants de Sartre.
Le symbole des fleurs, pour vous, c'est quoi?
C'est non seulement l'être majeur de ce siècle, mais je crois que c'est à peu près le seul être de ce siècle.
Le seul être de ce siècle, nous sommes tous des enfants de Sartre, c'était ce que l'on pouvait entendre au cimetière Montparnasse, il y a 25 ans, le jour de l'enterrement de Sartre. Denis Berthelet et Bernard Lefort, bonjour.
Bonjour.
Alors jamais, je pense, dans l'histoire, un philosophe n'aura eu droit à de telles obsèques, Denis Berthelet.
Oui, effectivement, ça a été quelque chose d'extrêmement impressionnant, un épisode quasi mythique dans nos mémoires. Il y a une chose extraordinaire qui s'est passée dans les années 70, c'est qu'il y a eu effectivement une identification extraordinaire d'une génération de jeunes à la figure de Sartre.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est précisément ça. L'homme a été l'homme, le philosophe de plusieurs générations. Lorsque le journaliste disait qu'on enterrait une certaine jeunesse avec la mort de Sartre, je crois qu'au contraire, la mort de Sartre, c'est un peu une éternelle jeunesse d'une certaine idée de la politique et de la philosophie en France.
Alors, un maître à penser que Sartre devient, nous l'avons vu hier, dès la fin de la guerre, alors qu'il n'a pas été un grand résistant, bien décidé, cette fois-ci, à s'engager, et d'abord, et comme toujours, en écrivant, et même en prenant la direction d'une revue qui était quelque chose d'assez extraordinaire, Les Temps modernes. Quel était l'objectif de cette revue, Denis Berthelet?
Alors, Sartre a eu une gloire extraordinaire et très rapide à partir de 1943. Et au fond, il a voulu dans la lancer, s'engager, puisqu'il y avait cette théorie de l'engagement sur laquelle on va, je pense, revenir, qui était montée en quelque sorte avec lui. Il a voulu créer une tribune à partir de laquelle il puisse prendre une position qui vienne, si on veut, donner la réponse aux deux forces dominantes de la France de l'époque, à savoir les communistes et les catholiques.
C'est vrai, l'idée c'était vraiment de faire table rase d'une classe intellectuelle et politique qui s'était déconsidérée pendant la guerre, et la revue devait s'appeler Grabuge, Le Grabuge. Michel Léris avait proposé ce titre, et finalement, comme le dit Simone de Beauvoir, nous voulions construire, et comme nous aimions Chaplin, nous l'avons appelé Les Temps modernes. Et effectivement, dès le premier numéro des Temps modernes, c'est une véritable déclaration de guerre à la bêtise.
Oui, l'éditorial de Sartre, hein, je le cite, ce numéro 1 des Temps modernes, nous nous rangeons du côté de ceux qui veulent changer à la fois les conditions sociales de l'homme et la conception qu'il a de lui-même. Notre revue prendra position en chaque cas. Donc ça, c'est l'engagement. Après des années pendant lesquelles Sartre n'était jamais intéressé, au fond, à la politique, et une résistance qu'il n'a pas faite très activement, le voilà vraiment engagé, et ça, il le sera jusqu'à sa mort en 80.
Tout à fait. Oui. Excusez-moi, Denis Bertrand. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a aussi, dans cette équipe, Aron, il y a Albert Olivier, et Camus a failli entrer.
Oui, c'était une équipe œcuménique, effectivement, la première équipe des temps modernes. Il s'agissait de regrouper, au fond, tout ce qui n'était pas dans les deux grandes églises que je nommais il y a une minute. Mmh. Donc, il s'agissait de partir tous azimuts et sous le chapeau des temps modernes, de mettre effectivement tout ce qui pensait, tout ce qui était novateur, tout ce qui pouvait participer à la reconstruction de la France. Reconstruction non pas au sens économique, mais au sens véritablement le plus profond de l'identité même de la France.
Et très écuménique, vous le disiez, Raymond Aron, Michel Léris, Jean Paulhan, Merleau-Ponty et bien sûr Simone de Beauvoir, qui devient avec Sartre la reine du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre.
L'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence.
Ah oui, l'existentialisme. L'existentialisme, est-ce que vous en savez, vous autres?
Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait. Première station, la librairie. Depuis les mains sales jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis.
C'est dans une cave, à Saint-Germain-des-Prés, qu'on vous attend tous au complet, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour ça, monsieur Tain. Nous voulons vous montrer l'ambiance des caves de Saint-Germain-des-Prés.
Dans tous les coins sur la piste, les gens que vous voyez sont tous existentialistes, de la tête jusqu'aux pieds. Ils sont là pour ça, y'a qu'à les regarder. Les rois des caves de Saint-Germain-des-Prés.
Nos pères chantaient, montent là-dessus, et tu verras mon mal. Nous on descend, on ne monte plus, et l'on voit Jean-Paul Sartre.
On est là pour ça, de chez nous du Rouvray, et même de beaucoup plus près, de Saint-Germain-en-Laye. Car l'existentialisme est un aspect du progrès. Qui donc disait qu'ils sont pris les existentialistes à Saint-Germain-des-Prés.
Étonnant, hein, Denis Berthelet, une philosophie, un philosophe qui inspire comme ça une chanson comme celle que l'on vient d'entendre après la guerre, et puis une philosophie, l'existentialisme, dans laquelle, il faut bien dire, on mettait un peu n'importe quoi et sans avoir jamais lu nécessairement une ligne de Sartre.
Naturellement, ça n'a rien à voir avec c'est ça.
Bernard Lefort.
On confondait, tout à fait, on confondait les azous, les existentialistes, les amateurs de jazz.
Et Sartre n'a accepté au fond le terme qu'à son corps défendant.
Ouais. Mais il ne supportait pas la publicité à certains moments qu'on a faite autour de l'existentialisme, c'est clair.
L'existentialisme, disait-il, je ne sais pas ce que c'est. Il a quand même écrit un livre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme.
Où il reprend le mot à son compte, mais il a beaucoup hésité, effectivement.
Il a même dit dans la critique de raison dialectique, beaucoup plus longtemps après, que c'était comme une marque de savon, et que de ce point de vue-là, ça ne l'intéressait pas.
Alors, Saint-Germain-des-Prés non plus, d'ailleurs, parce que autant il l'a fréquenté, le Flore avec Simone de Beauvoir pendant la guerre, c'est là qu'il a écrit un certain nombre de choses. Il a fait de Saint-Germain-des-Prés le quartier que c'est devenu après la guerre, mais lui il est reparti à Montmartre dans l'ancien quartier des intellectuels, et puis alors il écrit beaucoup, hein. Il est plus tellement au Flore où on vient le chercher en vain, on le trouve plus, mais alors il écrit énormément dans cette période 46-49, réflexion sur la question juive, l'existentialisme est un humanisme, la putain respectueuse, qu'est-ce que la littérature, situation 1 et 2, les mains sales, et même d'ailleurs une chanson pour Gréco. En 4 ans, mais c'est un bourreau de travail Denis Berthelet, c'est hallucinant.
La production de Sartre est phénoménale dans ces années. Il faut dire que la capacité de produire de Sartre était également phénoménale. C'est-à-dire qu'en une matinée d'écriture, il pondait, si j'ose le terme, 30 pages de philosophie serrées, sans rature, comme vous le disiez tout à l'heure, sans rature pratiquement. Donc il avait une capacité phénoménal. Alors, bon, il voulait écrire une pièce de théâtre, et il le disait, je m'y mets, et 15 jours après, la pièce de théâtre était faite. Alors, voilà, pendant ces années, ça n'a pas arrêté. Après.
Et avec une activité supplémentaire, justement, un engagement politique qui va être de plus en plus important. Et alors, pas du tout, au début, alors qu'il en sera le compagnon de route, auprès d'un parti communiste dont il se méfie et qui se méfie de lui, Bernard Lefebvre.
La méfiance est réciproque entre le parti communiste et Jean-Paul Sartre. D'abord parce qu'effectivement il n'est pas sorti comme un grand résistant, et deuxièmement parce que le parti communiste veut l'entraîner là où Sartre ne veut pas, c'est-à-dire que Sartre veut fonder une philosophie de la liberté et avoir essayer de penser une politique, ce qu'on a, on n'appelle pas ça encore les deux blocs, mais une pensée, une politique qui ne soit pas ni prisonnière de la droite classique, enfin de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le libéralisme, et du communisme radical tel que peut le représenter le socialisme de l'époque. Et Sartre veut une troisième voie, veut imaginer une troisième voie.
Oui, parce qu'il n'est même pas non plus, parce que les grands partis de l'époque, c'était quoi? C'était effectivement le Parti communiste, c'était les socialistes qu'il trouve trop mous, c'était le RPF de De Gaulle, ce sera bientôt le RPF de De Gaulle, dont il se méfie aussi. On l'imagine pas non plus être au MRP avec les démocrates chrétiens. Alors il crée avec David Rousset un parti, un petit parti qui vivra pas très longtemps, le RDR, hein, je crois, de Liberté.
Voilà, oui, le Rassemblement démocratique
révolutionnaire.
Oui, il a un peu flirté à un moment avec la gauche de la SFIO, parce que l'idée de la troisième voie était présente dans certaines tendances de la SFIO. Et puis effectivement, ils ont créé avec David Rousset ce Rassemblement démocratique qui, au fond, basait, je dirais, sa politique sur l'idée qu'effectivement, dans une politique des deux blocs, il fallait que l'Europe débarque avec une force à elle.
Bernard Lefebvre.
Oui, oui, c'est très, très intéressant de relire aujourd'hui les entretiens sur la politique, précisément avec Rousset et Rosenthal, dans lesquels Sartre prend position sur les grands thèmes de l'époque et sur la crise politique de l'époque. Et c'est intéressant de le relire aujourd'hui parce qu'on retrouve des idées que Sartre retrouvera 30 ans plus tard.
Alors, qu'est-ce qui explique brusquement, non pas son adhésion, puisqu'il n'y adhérera jamais, mais qu'il devienne officiellement le compagnon de route du Parti communiste et qu'il s'aligne, comme lui, sur l'Union soviétique, ce qui va d'ailleurs provoquer des ruptures graves pour Sartre avec des amis comme Camus, avec Aron qui va le quitter en 1947. Pourquoi, comment est-ce que Sartre est devenu un compagnon de route du Parti communiste?
Au niveau de son histoire, l'histoire des idées de Sartre, dirais-je, au niveau le plus personnel, moi je crois que c'est l'aboutissement d'une crise très grave qui affecte Sartre à partir de 46, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à sortir de l'être et le néant, il n'a pas réussi à faire la morale qu'il voulait faire, et à certains moments, philosophiquement, il s'est rejeté sur une sorte de nous, de sentiment collectif de l'histoire, qui a été ce qui l'a amené ensuite à compagnonner avec les communistes.
Oui, j'ajouterais, moi je pense qu'il y a aussi une détestation profonde de la bourgeoisie française qui n'a pas tiré toutes les conclusions de la guerre.
Qui date de son enfance, on l'a vu hier.
Qui date de son enfance, mais qui est aussi le résultat de cette après-guerre où pas mal de résistants sont assez désespérés de voir comment tout recommence comme avant. Et ça, je crois que Sartre et ses amis, parce qu'il n'est pas le seul, faut pas l'oublier, ne peut pas y adhérer à ce non-changement.
Oui, mais alors ça va aller très loin et ça pourra lui être reproché. Ça fait partie des erreurs, on ne peut pas le nier, de Sartre, qui non seulement devient le compagnon de route du Parti communiste, mais du même coup, part dans les pays communistes, notamment va en visite, et il ira plusieurs fois pendant très longtemps en Union soviétique, en revenant, et c'est l'époque de Staline, puis bientôt de Khrouchtchev, mais en revenant par exemple avec des formules comme celle-ci, la liberté de critique est totale en URSS, ou encore vers 1960 et avant 1965, si la France continue de stagner au niveau de vie moyen en URSS, le niveau de vie moyen en URSS, pardon, sera de 30 à 40% supérieur au nôtre. Si quelqu'un essaye encore de me dire qu'en URSS, la religion est persécutée ou interdite, je lui casse la gueule. C'est quand même extraordinaire, cet aveuglement de Sartre, parce que quand même, il n'est pas idiot, il voit bien ce qui s'y passe quand il y va. Peut-être qu'on lui cache quand même pas mal de choses.
Oui, Bernard Lefebvre. Sans parler de ces fameux villages Potemkin qu'on présentait à des voyageurs pour leur dire que le socialisme était extraordinaire, moi, je dis pas erreur, je dis choix, prise de position. Et Sartre veut véritablement trancher entre d'un côté ce qu'il estime être un fauteur de guerre, c'est-à-dire l'Amérique triomphante, et un communisme qui, malgré toutes ces erreurs qu'il reconnaît d'ailleurs, ils ont dénoncé les camps des 50, des 48-50 dans les temps modernes, donc il sait ce qui se passe. Je crois qu'il veut garder une mesure et essayer d'établir un vrai dialogue et pas risquer une conflagration. Je pense qu'il y a ça chez Sartre, il y a une volonté de maintenir la distance pour qu'il y ait un débat et peut-être une victoire du communisme, ça peut-être.
Denis Berthollet.
Oui, alors effectivement, le souhait qu'il y ait une victoire du communisme est présent chez Sartre, certainement. Mais là, je peux difficilement suivre votre analyse. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme une éthique de l'irresponsabilité chez Sartre, à partir du moment où il s'engage, qui fait pendant à son éthique de la conviction. C'est-à-dire, la conviction est première. Et étant donné cette conviction, il y a une indifférence aux faits. C'est-à-dire que Sartre, d'une certaine manière, se permet de dire n'importe quoi. Il le sait, il ne le sait pas toujours, parce qu'on lui fait croire, on lui a fait avaler des couleuvres invraisemblables quand il s'est promené en Union soviétique, et il gobait ça de manière invraisemblable.
Alors ses yeux vont quand même se dessiller en 56, lors de la révolte de Budapest, qu'il condamne. Cela dit, il s'éloigne du Parti communiste français, mais il continuera à garder des liens en URSS. Et tout ça se produit au moment où commence la guerre d'Algérie, dans laquelle Sartre va prendre parti contre l'armée française, pour le FLN et pour ceux qui l'aident en France. Une position qui lui vaudra les foudres des partisans de l'Algérie française, et notamment de Jean Nochet, qui en 1960... stigmatisait celui qui avait osé soutenir ce qu'on appelait à l'époque les porteurs de valises, le réseau Janson, de soutien aux combattants algériens du FLN, Jean Nochet.
Cet acte de M. Sartre, qu'on me permette de dire avec vous que c'est de la provocation au crime et de la complicité d'assassinat, que ce coupable doit être traité comme un délinquant ordinaire et qu'il ne doit être protégé ni par sa gloire scandaleuse, ni même par le fait indécent qu'on ait cru devoir mettre jadis ce singulier maître au programme de nos lycées et de nos facultés. Les titres des œuvres de M. Sartre étaient déjà en eux-mêmes tout un programme. Les mains sales, la nausée, le salaud, je cite, et la paix respectueuse, j'abrège. Cet écrivain dégradant, qui ne développe que les thèmes de l'angoisse, du désespoir, de l'impuissance, de l'absurdité de la vie, du néant de la morale et de l'absolu de la mort. Ce désintégrateur qui est responsable du mal d'une certaine jeunesse, ose à présent s'autoriser de l'idéal de la résistance. Quand Jean-Paul Sartre dit « Je souhaite la victoire du FLN », il copie, une fois de plus, un mot célèbre de Pierre Laval, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et c'est avec ces mots-là qu'on fait toujours les défaites de la France, et nous en avons assez.
Quelle violence dans cet éditorial de Jean Nochet en 1960. Il faut dire que l'époque s'y prêtait, que lui-même Sartre était très violent hein, dans les anathèmes qu'il lançait contre ses adversaires, mais c'est vraiment une atmosphère là qu'on vient d'entendre dans cette archive, Bernard Lefort.
Moi, je trouve que c'est tout de même un aveuglement incroyable de la part de Nochet, et sans doute lié à une défense d'une certaine vision de la France, d'un certain parti. C'est que ces années quand même de décolonisation sont des années où la décolonisation s'impose dans le monde entier, et où il y a pour la France une vraie critique, une vraie rupture, ce que comprendra De Gaulle d'ailleurs après, et finalement tous ceux qui soutiennent la soumission d'Algérie sont aussi ceux qui vont accompagner le mouvement de décolonisation que Caron, que Malraux, que De Gaulle reconnaîtront nécessaire après. Donc je crois que il y a beaucoup de mauvaise foi dans la déclaration de Nochet et de manipulation, je trouve.
Qui est étrange et qui fait un procès sur la guerre d'Algérie à Sartre, un procès qui s'adresse à un autre Sartre qui n'est plus celui qui parle à ce moment-là, qui est le Sartre de la fin des années 30 et de l'existentialisme triomphant.
Et Sartre qui sera, vous le rappelez, de Liberté dans votre biographie, qui sera victime d'ailleurs à deux reprises d'attentats de l'OS, hein, sa maison de la rue Bonaparte a été plastifiée. Donc c'est assez courageux, de même qui est très courageux aussi, quatre ans plus tard, le fait que cet écrivain, alors que c'est le rêve de tout écrivain, refuse le prix Nobel et ce qui vient avec, c'est-à-dire quand même une rémunération importante. Mm-hmm. Il le refuse.
Il le refuse parce qu'il ne veut pas être statufié, tout simplement. Oui. Il veut vivre.
Oui, voilà. Et puis, il est allergique aux institutions. Il est allergique à ce type de prix de reconnaissance. Cela dit, c'est très ambigu, parce qu'en même temps qu'il refuse le prix Nobel, il va régulièrement à Moscou, où il acceptera volontiers un certain nombre de décorations officielles, ce qui est désolant.
Alors, le voilà donc dans les années 60, et notamment à 63 ans, à la fin des années 60, il va se passionner aussi pour la cause des étudiants de 1968, dont il comprend la révolte et auquel il recommande la violence.
De fait, ici, nous occupons la Sorbonne.
La vérité, c'est que la violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime, aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être dans 30 ans ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer, et par conséquent ce refus est évidemment un refus de violence. Le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est de s'en remettre.
On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec. On ferme, on verra.
c'est Catherine Ribeiro, une chanson de Prévert qui date de cette époque de mai 68 où Sartre est pratiquement la seule icône que reçoivent avec bonheur, avec plaisir, que les étudiants ne rejettent pas quand il vient à la Sorbonne. Denis Berthollet.
Bah oui, il est accepté effectivement. Et ce discours qu'on vient d'entendre est tout à fait étonnant, puisqu'enfin, il a l'âge des pères et il est tel qu'il décrit les pères. Mais lui se met dans un autre type d'humanité. Je crois que là, il y a une histoire qui est très ambiguë qui commence à ce moment-là, à savoir que Sartre, au fond, il a besoin d'être aimé, il a besoin de se fondre dans un nous, dans une collectivité, et il se donne, il s'offre en quelque sorte à la révolte étudiante.
Oui, je veux bien accorder à Denis Berthollet cette explication un peu psychanalytique.
Un bain de jouvence.
Et en même temps, je crois que le 68, c'est l'aboutissement d'une certaine réflexion qui se trouve dans la critique de Raison dialectique, ce livre qu'il a écrit quelques années auparavant sur les groupes en fusion, sur la nécessité de trouver, de fonder une liberté en travaillant aussi sur l'idée de violence. Et il retrouve dans 68 des idées libertaires qu'il avait avant et qui enfin lui permettent de contester la société et particulièrement une université qu'il ne reconnaît pas vraiment.
Et en radicalisant encore son action, en proposant ses services à des mouvements de gauche ou d'extrême gauche qui les lui demandent, il participe à la naissance, il va même distribuer dans les rues la cause du peuple en 70, il va parler sur un tonneau, n'est-ce pas, à des ouvriers à Billancourt en rêvant d'une réconciliation entre les intellectuels et les étudiants. Il sera à l'origine de la fondation du journal Libération. Il va même jusqu'à rendre visite en prison au chef de la fraction armée rouge allemande, Andreas Baader, dans sa prison de Stammheim, le 4 décembre 1974.
Cette visite à la prison de Stuttgart, où sont détenus les fondateurs de la fraction armée rouge, Ulrich Meinhof, Gudrun Enslin et Andreas Baader, est pour le ministre Filbinger un manque de tact vis-à-vis de leurs victimes.
Pas un des attentats qui ont été commis n'est un attentat gratuit. Ils ont tous un sens politique et on ne peut interpréter l'affaire Baader que comme une affaire politique. L'idée qu'il n'est pas un homme politique est une idée absurde, c'est une idée de mauvaise foi même. Et il est bien certain que le fait de le traiter en droit commun, c'est déjà une injustice. Juger en droit commun un homme qui a fait des actes politiques, c'est évidemment supprimer la notion de condamné politique ou d'accusé politique, et c'est par conséquent créer à la justice un grand tort.
Et cette visite de Sartre donc à Andreas Baader en décembre 74, c'est évidemment un des engagements les plus contestés de Jean-Paul Sartre, qui à l'époque déjà ne voit pratiquement plus rien, ne peut plus écrire. C'est vraiment triste les dernières années de Jean-Paul Sartre. Vous avez vu, il y a une espèce de déchéance physique, Bernard Lefort, qui était terrible à la fin, et surtout cette privation de ce qui était pour lui vital, c'est-à-dire l'impossibilité d'écrire et de lire.
Je l'ai rencontré vers la fin de sa vie, je ne le voyais pas souvent, j'ai vu une ou deux fois, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu triste lorsqu'on le rencontrait, mais en même temps il y avait toujours cette étonnante présence de cet homme assis sur son fauteuil en cuir à qui on lisait des textes, hein. La dernière partie de sa vie, on lui a lu des textes, et aussi il écoutait beaucoup, beaucoup France Musique d'ailleurs, il en parle beaucoup, il y a eu beaucoup d'entretiens, il n'écrivait plus, mais il donnait des entretiens. Une passion permanente pour la musique à l'époque. Oui.
Denis Berthollet, oui, sur ces dernières années de Sartre, où on ne le voit plus beaucoup pratiquement.
Et lui... Alors oui, il y a quelque chose d'assez pathétique, parce qu'effectivement, je pense que ça explique largement cette sorte de fuite en avant dans une radicalisation à outrance, si on veut. Et puis en même temps, il y a quand même une dernière image de Sartre qui pour moi reste extraordinaire, c'est que ce Sartre qui ne peut plus écrire, continue quand même d'essayer d'écrire. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, il a couvert des centaines, peut-être des milliers de pages, qui ne sont pas éditées à ce jour, de pattes de mouche, pratiquement illisibles. Donc la mécanique de l'écriture a continué chez lui jusqu'à l'extrême fin.
Et en écrivant un énorme pavé, qui est un Flaubert qui n'a jamais pu achever, je voudrais savoir, il est donc mort il y a 25 ans, il est né il y a exactement 100 ans, est-ce que c'est encore un personnage actuel? Quelle est sa place dans la littérature, dans la philosophie aujourd'hui? Et peut-on dire, c'est un peu ce que vous semblez dire en disant qu'au fond, il n'y a pas de successeur réel dans votre titre, Bernard Lefort, Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous. Est-ce qu'il y a des successeurs à Jean-Paul Sartre?
Écoutez, le successeur de Sartre, c'est Sartre. parce que je pense qu'on n'a pas encore lu assez Sartre et qu'il faut le relire, arrêter de le mépriser, alors que dans le monde entier, il y a eu, pour ce centenaire, il y a eu des dizaines de colloques, des dizaines de travaux, particulièrement en Allemagne. Il y a sur la liberté, sur la démocratie, sur la fondation d'une nouvelle politique, sur l'humanisme, sur la vie tout court et la façon de comprendre comment vivre, eh bien, il y a Sartre, au fond, qui doit être lu et relu et commenté et dépassé.
Je crois que ce qui reste, c'est Sartre. Effectivement, Sartre se met à Sartre parce qu'il y a cette masse d'écrits qui sont des classiques, mais qui sont des classiques dans le sens vivant du terme. Et je crois qu'il faut continuer de les lire, tout simplement.
Mais en même temps, ce modèle de l'intellectuel engagé qu'il a incarné, on a l'impression qu'il a totalement disparu. 25 ans après sa mort, il n'y a plus
de... Alors, le modèle de l'intellectuel, moi, je crois que c'est plus celui de la personne de Sartre. Le modèle d'intellectuel, je pense, tel que Sartre l'a incarné, a fait son temps, historiquement, sociologiquement. Il a fait son temps.
Je ne pense pas qu'il ait fait son temps. Moi, je pense qu'il y a une trahison, pas des clair, mais des intellectuels aujourd'hui, et qu'effectivement la fin du communisme, la chute du communisme a permis finalement aux intellectuels de s'endormir un peu. Je dis pas qu'il y a plus d'intellectuels, mais je pense que leur posture est un peu tristement peinarde. Voilà.
On n'imagine pas Sartre en train de soutenir l'intervention américaine en Irak, je suppose.
Non, certainement.
Denis Berthollet, merci. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Sartre, une biographie qui va être rééditée en poche chez Perrin en collection Timpus. Vous avez également écrit Sartre, l'écrivain malgré lui, publié chez Infolio. Enfin, Bernard Lefort, vous venez d'écrire Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous, un essai paru chez Ramsay, trois livres, dont je recommande chaleureusement la lecture. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1951, distribuée en VHS par Montparnasse Vidéo. Enfin, jusqu'au 21 août 2005, l'exposition Sartre à la BNF cite François Mitterrand, c'est une exposition à voir. D'autres références, beaucoup même, sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, après un monstre de la littérature, un monstre de la musique, Beethoven. Mais tout de suite, à 14h30, le Beethoven du rap, du rock, du pop, sur France Inter, Eric Oswald.
Merci beaucoup, Patrice Gélinet, et à demain.
Amis de la musique.
Musique. Music.